22h, l'heure de votre journal, Thomas Bénèche, bonsoir.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
Et à la une, les mots d'un homme libre ce soir.
Ceux de Boualem Sansal qui s'exprime pour la première fois à la radio. Il le fait auprès de nos confrères de France Inter pour raconter sa détention, analyser entre autres les rapports franco-algériens. Son témoignage à suivre dans les toutes prochaines secondes. Dans le journal, nous reviendrons également sur cette permission de sortie polémique. Elle a été accordée à un prisonnier dangereux du quartier ultra sécurisé de la nouvelle prison de Vendin-le-Vieil. Et puis nous reviendrons sur la performance de la Française Doriane Pain. Elle a remporté la nuit dernière l'édition 2025 de la F1 Academy. C'est la première fois donc qu'il parle à la radio depuis avoir été gracié par l'Algérie et remis en liberté. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal s'exprime ce soir au micro de France Inter. Il revient sur ses conditions de détention, sur l'état d'esprit qu'il a habité, sur l'humiliation que représente le fait d'avoir été prisonnier. Il s'exprime aussi ce soir sur les relations diplomatiques entre Paris et Alger, sur ce qu'elles vont devenir. Lui qui fait savoir qu'il compte revenir dès la semaine prochaine en Algérie. Boualem Sansal.
Il faut trouver un nouveau chemin, parce que tous les chemins ont été essayés et n'ont pas abouti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation particulière. Elle est totalement isolée. Sur la question du Sahara occidental, elle est maintenant seule. Je crois que même les Sahraouis, si j'ai bien compris, ils ne veulent plus de la médiation algérienne. Parce qu'ils disent, elle nous bloque, alors qu'on peut, après tout, discuter avec les Marocains. La décision du Conseil de sécurité qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental et le désaveu de la Russie et de la Chine, qui n'ont pas soutenu l'Algérie. Donc là, ils sont au fond du gouffre. Et on a un atout, c'est Boualem Sansal. On va le lâcher. Alors on attend les suites de l'épisode Boualem Sansal.
Vous espérez que votre libération aide à ce que ça aille mieux?
Oui, je pense que c'est... En Algérie, presque tous les gens le disent, on croit cela. On l'a libéré comme amorce.
Et pour écouter cet entretien de Boualem Sansal plus en longueur, ce sera demain matin à 8h20 chez nos confrères de France Inter en compagnie de Benjamin Duhamel et de Florence Paracuelos. Le plan de paix américain pour l'Ukraine, toujours discuté ce soir en Suisse, à Genève, un plan en 28 points qui donne lieu depuis ces dernières heures à de nombreuses prises de parole des Ukrainiens, des Américains. Mais qui a écrit ce plan si favorable à la Russie? Cela suscite d'intenses questions, tant chez les dirigeants européens que chez les sénateurs américains, Agathe Mahué.
Ce sont trois élus du Sénat américain, un républicain, une démocrate et un indépendant qui ont semé le doute ces dernières heures en rapportant un échange avec le chef de la diplomatie Marco Rubio, selon lequel ce plan initial en 28 points ne correspond pas à la position américaine, mais représente une initiative de Moscou. Un texte comme un simple point de départ à des discussions incluant une liste de souhaits russes pour les conditions d'une paix en Ukraine et qui n'avait pas vocation à être divulgué, mais qui a fuité. Des propos démentis dans la foulée par le secrétaire d'État américain qui est aujourd'hui présent en Suisse, Marco Rubio affirme au contraire que la proposition de paix a bien été rédigée par les États-Unis, sans convaincre pourtant certains alliés de l'Ukraine comme le Polonais Donald Tusk qui se dit prêt à travailler sur ce plan malgré quelques réserves. Avant de commencer notre travail, nuance le dirigeant, il serait bon de savoir avec certitude qui est l'auteur de ce plan et où il a été élaboré.
Agathe Mahué, France Info aux États-Unis. Ce soir, le secrétaire d'État américain Marco Rubio se dit très optimiste sur la possibilité de conclure un accord, je cite, très vite sur l'Ukraine, des propos tenus ce soir face à la presse. Le mouvement a confirmé ce soir l'information. Israël a tué ce soir le chef militaire du Hezbollah. Cela s'est fait ce dimanche lors d'une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth. Une frappe qui a fait au moins 5 morts selon les autorités libanaises.
22h04 sur France Info, Thomas Bénèche, retour en France et les syndicats pénitentiaires sont vent debout.
La justice a accordé à un détenu de la prison de Vendin-le-Vieil une permission de sortie pour la journée de demain. Le détenu en question est un homme de 52 ans, un détenu jugé suffisamment dangereux pour être incarcéré au quartier ultra sécurisé de cette nouvelle prison de Vendin-le-Vieil depuis cet été, Pierre de Cossette.
Oui, c'est un visage bien connu des policiers de Seine-Saint-Denis, membre d'une fratrie réputée pour avoir régné sur le trafic de drogue à la Courneuve, condamné en 2012 avant qu'un commando armé ne l'aide à s'évader lors d'un passage à l'hôpital. Libérable en 2029, il a demandé une permission de sortir pour se rendre chez un possible futur employeur. Autorisation accordée vendredi par la cour d'appel de Douai contre l'avis du directeur de la prison, du procureur et du procureur général. Thomas Jacot, secrétaire national du syndicat UFAP, n'en revient pas.
Qu'on puisse savoir aujourd'hui un détenu qui bénéficie d'un régime strict, encadré en détention, des parloirs hygiaphones à qui on empêche tout contact avec l'extérieur, heures, le voir sortir de l'établissement par la porte d'entrée, puis revenir le soir de lui-même sans escorte, sans rien. En fait, on est dans un espèce de grand écart cérébral qui est insupportable pour tout le monde.
Alors l'avocate du détenu, Marie Violot, considère de son côté que cette décision est parfaitement logique, prise par plusieurs magistrats indépendants, et y voit un système de réinsertion qui fonctionne. Une permission de sortir qui court sur toute la journée de demain, avec plusieurs enjeux pour l'administration pénitentiaire, que le détenu regagne bien sa cellule le soir sans rien dans les poches, et qu'il n'ait pas de contact autre que ce possible futur employeur durant la journée.
Pierre Decossette, service police-justice de France Info, est ce soir dans ce dossier, et sans commenter la décision individuelle rendue par un juge, le garde des Sceaux estime que le cadre législatif d'application des peines doit être pleinement revu face aux réalités de la grande criminalité organisée. Des propos tenus par Gérald Darmanin sur le réseau X. Le secrétaire national du Parti communiste appelle à la création de 60 000 emplois supplémentaires de policiers et de douaniers, et cela afin de mener un combat sans merci, dit-il, contre le narcotrafic. Des propos tenus à l'occasion d'un meeting de Fabien Roussel à Marseille, un événement qui se tient au lendemain de ce rassemblement en mémoire de Mehdi Kessassi, le petit frère d'Amine Kessassi, ce militant anti-narco-banditisme. La France insoumise a lancé sa campagne pour les prochaines élections municipales 2026. C'était cet après-midi à l'occasion d'un meeting organisé en Seine-Saint-Denis. Ce seront des élections politiques du fait du contexte actuel. Nous serons à un an de l'élection présidentielle dont ceci pourrait bien être un galop d'essai, analyse Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France insoumise, qui s'est exprimé ce dimanche devant quelques 2000 militants. La politique, c'est aussi ce soir cette sortie de Marine Le Pen auprès du journal Ouest France. Elle estime que le rejet de la partie recette du budget en première lecture à l'Assemblée doit conduire à la démission du gouvernement et à la dissolution de l'Assemblée nationale. La chef de file des députés Rassemblement national du jugé que rien ne peut remplacer le retour aux urnes.
En Isère, un homme de 39 ans est mis en examen.
Il s'agit de l'homme soupçonné d'avoir tué sa femme retrouvée calcinée dans une voiture mercredi à Saint-Marcel-Bel-Accueil. Il est aussi placé en détention provisoire, rapporte ici Isère Ex-France Bleu. Lors de sa garde à vue, le suspect a reconnu être à l'origine de la mort de sa compagne âgée de 27 ans. Le gouvernement travaille à la mise en place d'un nouveau service militaire basé sur le volontariat. Des travaux sont en cours pour le mettre sur pied, confirme sur France Info la ministre déléguée aux armées. Ce service revisité prendra le nom de service national volontaire, avec une formation au métier des armes sur 10 mois, une formation rémunérée selon les informations recueillies par France Info. Les propositions de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant votées en milieu de journée au CESE, le Conseil économique, social et environnemental à Paris, une adoption à la quasi-unanimité. 20 propositions mises sur la table, dont celle de passer à 5 jours pleins de classe, de l'élémentaire au lycée. Il y a aussi la proposition de faire débuter les cours à partir de 9h au collège et au lycée afin de favoriser une meilleure attention des élèves. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant préconise également, et entre autres, de passer de 3 à 2 zones de vacances.
C'était la nuit dernière sur le circuit de Las Vegas et en marge du Grand Prix de F1.
À 21 ans, la pilote française Doriane Pain a remporté cette année la F1 Academy, un championnat de monoplace réservé aux femmes et créé en 2023. Et pour elle, la seconde tentative pour remporter ce championnat aura été la bonne, Nouredine Zidane.
Doriane Pain has won the championship.
Le poing et l'index levé, Doriane Pain laisse exploser sa joie à bord de sa monoplace argentée. Vice-championne du monde la saison passée, elle est sacrée cette année grâce à sa régularité. 4 victoires en 14 courses, sans jamais terminer au-delà de la 6e place.
Merci beaucoup pour avoir contribué à ce succès. Vous m'avez beaucoup aidé depuis le début de ma carrière. Je vous aime, les gars. Merci à chacun d'entre vous. Quel boulot vous avez fait.
Familière des pistes automobiles depuis l'âge de 9 ans, elle est repérée début 2024 par Mercedes, qui l'intègre à sa filière jeune pilote, dont est issu George Russell, le pilote F1 de l'écurie allemande, au micro de Canal+.
Oui, je suis très heureux pour Doriane qui a gagné la F1 Academy. Elle travaille si dur cette année. Elle nous demande souvent des conseils. Elle n'est pas timide, elle n'a pas peur de poser des questions.
La F1, c'est le rêve de celle que l'on surnomme la fusée de poche en raison de sa petite taille, 1m59. Seules 5 femmes y sont parvenues dans l'histoire de la discipline. La dernière, c'était l'italienne Giovanna Amati, il y a 33 ans, mais elle n'avait pas réussi à franchir le cap des qualifications et à disputer un grand prix.
Nouredine Zidane, direction des sports de Radio France. Le sport, c'est aussi ce soir le football, avec ce match entre Lille et le Paris FC en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Il y a pour l'instant un partout entre les deux équipes. Et puis en top 14, Marc Potvin, le Stade français reçoit en ce moment le RC Toulon et il y a 23-10 en faveur du Stade français, en faveur des Franciliens.
Thomas Benesch sur France Info, merci et à tout à l'heure, 22h10.
L'œil de Constance, du lundi au jeudi sur France Info.
Bonjour, c'est Constance Villanova. Je vous retrouve tous les matins pour vous raconter les petits et grands mouvements de nos écrans. Des réseaux sociaux aux séries, en passant par les influenceurs, chaque jour, je décrypte ce que les tendances 2.0 disent de notre société.
L'œil de Constance, du lundi au jeudi à 7h55 et 10h25 sur France Info.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur France Info. Dans la prochaine demi-heure, vos rendez-vous du dimanche soir, France Info Monde et la Chine qui veut punir le Japon après des déclarations en faveur de Taïwan. La sortie de deux films d'animation japonais est reportée. Nous allons aussi parler de manga au cœur d'une exposition à Paris que les enfants de France Info Junior ont visité. Mais d'abord, les conclusions de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Le secteur du tourisme retient son souffle, nous allons voir pourquoi.
France Info, 20h minuit, Marc Potvin.
Plus de 130 Français représentatifs de notre société ont planché sur cette question. Comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants à l'école, lors de leurs activités extrascolaires ou pendant les vacances? Le résultat, ce sont 20 propositions consignées dans un rapport. Il a été adopté à la quasi-unanimité ce midi au Conseil économique, social et environnemental, Sophia Berada.
Oui, déjà au moment d'adopter le rapport, on sentait une effervescence dans la salle.
Je clôt le vote.
Et quand le résultat s'est affiché, on a senti une émotion très forte des citoyens tirés au sort, comme Anne.
Parce que ça y est, c'est fait. On a travaillé pendant 21 jours, ça a été 7 week-ends hyper denses.
Parmi les propositions formulées, respecter le cycle hormonal des enfants et des adolescents, commencer les cours plus tard au collège et au lycée, à 9h, et puis répartir les cours autrement.
Les activités magistrales, comme les maths et le français, le matin, les enfants ont une activité intellectuelle optimale. Et l'après-midi, faire du théâtre, faire quelque chose de manuel.
Le soir, selon eux, il faudrait finir plus tôt, limiter les devoirs ou les faire à l'école pour laisser du temps libre aux enfants. Les citoyens ont aussi pensé au transport ou à la rénovation du bâti scolaire. Et maintenant, comme Samy et Camille, ils ont le regard tourné vers l'exécutif.
Nous espérons que le gouvernement actuel, à condition qu'il n'ait pas changé d'ici là, fasse des mesures concrètes.
Il faut que ce qui se poursuit, ce soit à la hauteur de notre travail, parce qu'on l'a fait en pensant sans arrêt aux enfants.
Le Premier ministre a donné 15 jours à son gouvernement pour analyser le rapport de la Convention citoyenne.
Reportage de Sophia Berada au Conseil économique, social et environnemental à Paris. La balle est donc désormais dans le camp de l'exécutif et c'est certain, vous allez suivre ça de près, Jean-Luc Bock. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire de la Plagne Tarentaise en Savoie, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, aussi président de France Montagne. Alors, parmi les 20 propositions du rapport, il y a celle-ci, le passage de 3 à 2 zones dans le but d'alterner plus équitablement les semaines d'école et celles de congé. Catastrophe en perspective pour les professionnels du tourisme?
Alors, ce ne serait pas une catastrophe si on ne croisait pas les zones au milieu central, c'est-à-dire que la première zone soit croisée avec la deuxième zone sur la deuxième période de vacances, puisque là, ça va poser un problème de fréquentation, de surfréquentation.
Mais c'est l'option qui est retenue justement par la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, avoir au moins deux zones, ça permettrait à toutes les régions d'avoir au moins une semaine en commun.
Oui, mais si vous regardez les vacances de février, notamment en ce qui concerne les vacances de montagne, ça veut dire qu'on va concentrer 3 semaines de vacances en février au lieu de 4 semaines et on va avoir une surfréquentation à un moment donné. On a 217 stations en France, ces 217 stations ne peuvent pas accueillir en même temps tout le monde. Donc on va automatiquement augmenter les prix, on va avoir une surfréquentation à un moment et une catastrophe, non seulement en termes de mobilité, il n'y aura pas assez de trains, pas assez de bus et des voitures de partout en vacances en même temps. Économiquement, ça va être très compliqué et surtout, on va connaître des périodes de grosses difficultés.
Donc pour vous, c'est vraiment la mauvaise idée. En tout cas, ça s'envisage sur le papier, mais concrètement, beaucoup plus difficile.
Sur la partie des vacances de février, ça paraît complètement improbable et ça va être une catastrophe. Est-ce que la France a les moyens aujourd'hui de se passer de cette économie? Je rappelle qu'elle génère 11 milliards d'euros. C'est la question que je peux poser, et le bien-être de l'enfant est au centre des préoccupations, c'est sûr. Mais pourquoi pas dans la première
Vous mettez chose, l'intérêt des professionnels du tourisme avant celui des enfants ?
Pas du tout, pas du tout. C'est ce que je vous ai dit. L'enfant et l'intérêt de l'enfant est prioritaire. Mais avoir 2 semaines de vacances, première zone, et 2 semaines de vacances après, sans que les zones se croisent, ça paraît pas du tout un problème. Ça permet de mettre une économie en place et surtout le bien-être aussi des enfants. Parce que s'ils viennent en vacances avec leurs parents et qu'ils assistent à un croisement ultra surchargé, ils ne seront pas bien à l'aise non plus et ils ne seront pas reposés. N'oublions jamais que les vacances, c'est d'abord pour se reposer et pour le bien-être des enfants aussi.
Alors, vous parlez d'une possible surfréquentation, si tout ça, évidemment, venait à se concrétiser. Hein, c'est pas encore le cas à ce stade. Il y a aussi le fait que, pour le cas des vacances d'hiver, cela reviendrait pour les professionnels de la montagne à avoir une semaine de fréquentation en moins.
Complètement. Ça veut dire qu'on supprimait une semaine des vacances de février et qu'on concentrerait sur la période intermédiaire, donc les deux zones qui représentent aujourd'hui les 3 zones de vacances. Ça veut dire qu'on aurait un capharnaüm de mobilité, un capharnaüm de fréquentation, et on réglerait absolument aucun problème. C'est pour ça qu'il est urgent et sage de discuter sur ces périodes, de voir si on ne peut pas avoir 2 zones en première période, 2 zones après. Ça permettrait de maintenir la stabilité pour les enfants, puisque je rappelle que dans les principales propositions qui ont été faites, c'est aussi le bien-être de l'enfant qui est en ligne de compte. Donc il faut juste un petit peu d'adaptation, de modification, et je pense qu'on peut avoir raison tous et ne pas mettre en difficulté les enfants.
Oui, parce que c'est le gouvernement qui doit décider ce qu'il va faire de ce rapport de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Comment vous comptez faire entendre votre voix, vous, les professionnels du tourisme ?
Alors, on l'avait déjà fait entendre, on avait déjà discuté sur ce calendrier scolaire, on avait fait des propositions qui concernaient le fait qu'être en 3 zones sur la période Noël, jour de l'an, ça ne posait pas forcément de grosses difficultés, puisque Noël, le 25 décembre, est une date fixe, et le 1er janvier aussi. Donc, s'il y avait un croisement sur ces 2 zones, c'était pas forcément une difficulté. Mais par contre, en ce qui concernait les vacances de février, ça devenait un vrai problème. Et je pense qu'on doit allier économie et bien-être pour les familles, pour l'intégralité des personnes qui composent le pays, et évidemment les enfants.
Jean-Luc Bock, maire de la Plagne Tarentaise en Savoie, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, président aussi de France Montagne. Merci d'avoir pris quelques minutes ce soir dans le 20h Minute France Info pour répondre à nos questions.
France Info reportage, partout avec vous.
Voici Judith, 15 ans, temps d'écran quotidien sur TikTok.
3 heures.
Elle ne voit pas du tout ses parents télécharger TikTok sur leur téléphone pour ensuite contrôler à distance son compte.
Ça risque pas d'arriver, je pense, ils l'installeront jamais.
Sur le terrain, sur tous les terrains.
Un grand ciel bleu, les familles pique-niquent dans une bonne odeur de grillade.
Il y a des jeunes, des enfants, c'est très festif. J'oublie que c'est la guerre. Il faut profiter du moment présent, car on ne sait pas de quoi demain sera.
France Info, pas juste l'info, l'info juste. Ces destins qui font l'info, une série à découvrir chaque dimanche sur France Info.
Ils ont marqué l'actualité ces derniers mois. France Info explore le parcours des personnalités qui influencent et modèlent le monde.
Cette semaine,
Giorgia Meloni.
Je suis et je serai toujours fière d'être une personne du peuple.
Ces destins qui font l'info, le dimanche à 8h50 et 12h50 sur France Info. France Info, 20h minuit.
Des étincelles entre la Chine et le Japon, nous allons voir pourquoi dans un instant dans France Info Monde avec Catherine Potier. 22h19, l'info en une minute. Avec vous Thomas Benesch, l'écrivain Boualem Sansal revient sur ses conditions de détention.
Il s'exprime ce soir publiquement pour la première fois à la radio après avoir été gracié, remis en liberté par l'Algérie. Être prisonnier, c'est une
humiliation, raconte l'écrivain dans un entretien accordé à France Inter, un entretien écouté en longueur demain matin à 8h20. Le plan américain pour la paix en Ukraine en négociation à Genève, et ce soir, le secrétaire d'État américain Marco Rubio se dit très optimiste quant à la possibilité de conclure un accord très vite sur l'Ukraine, des propos tenus face à des journalistes. Pour le garde des Sceaux, le cadre législatif d'application des peines doit être pleinement revu face aux réalités de la grande criminalité organisée. Cette prise de position intervient alors qu'un détenu du nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée de la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais a obtenu une permission de sortie pour la journée de demain. Cette permission suscite l'incompréhension des syndicats d'agents pénitentiaires. Et puis un mot de la Ligue 1 de football avec ce duel en cours entre Lille et le Paris FC. Lille qui mène désormais sur le score de 2-1, 77e minute de jeu.
France Info.
Et tout de suite, c'est France Info Junior. Et nous parlons ce soir d'une exposition dédiée au manga où vous vous êtes rendu, Ingrid Pohu, avec les enfants de France Info Junior et votre invité.
Au milieu des porcelaines, sculptures et des estampes japonaises, place au manga qui orne les murs du musée Guimet. Manga tout un art, c'est le titre de cette exposition exceptionnelle qui vient d'ouvrir au musée Guimet et jusqu'au 9 mars prochain. Bonjour Estelle Bauer.
Bonjour.
Vous êtes la conservatrice des expositions japonaises du musée Guimet. Un grand merci d'ouvrir les portes de ce magnifique musée à nos journalistes en herbe du jour. Ils s'appellent
Gaston, Alexandre, Mathieu et Adam.
Je crois qu'on peut partir pour une visite guidée qui va être exceptionnelle avec vous. Cette Bauer. On vous suit ?
Ouais. Donc là, on arrive dans la première salle dans laquelle on trouve à la fois des planches de manga, donc des vrais dessins faits par des mangaka, et aussi du théâtre de papier, le Kamishibai, qui est un peu l'origine, une des origines du manga, c'est-à-dire c'était comme du théâtre ambulant, mais avec un conteur qui raconte des histoires avec des planches qu'il montre les unes après les autres.
Qui a créé le premier manga et en quelle année ?
Ouais, alors ça, c'est une bonne question, mais c'est difficile de répondre et de dire exactement en quelle année. En tout cas, dans l'exposition, le manga le plus ancien qui est présenté, un vrai manga avec des cases et des bulles, c'est Norakuro, le petit chien noir, un chien soldat, et qui a été inspiré par Félix le Chat. Vous pouvez voir ici. En fait, c'est avant la guerre, ça date des années 1930, et là, c'est plutôt proche de la bande dessinée, mais on lit déjà de la droite vers la gauche. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est vraiment déjà de la bande dessinée en noir et blanc. Mais ça ressemble un petit peu à du théâtre, en fait. On a l'impression que les personnages sont debout sur la ligne de la case, comme s'ils marchaient sur une scène de théâtre.
Pourquoi les mangas sont dessinés en noir et blanc ?
Ah, alors là, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est une raison économique, comme ils doivent produire de manière très rapide. On dessine juste, et parce que mettre la couleur, appliquer la couleur, ce serait plus long. C'est aussi moins cher d'imprimer en noir et blanc. Et puis, je pense qu'il y a aussi une tradition au Japon. Le Japon, c'est un pays depuis des siècles où on écrit et on dessine avec un pinceau et de l'encre. Donc, il y a un vrai goût pour le noir et blanc.
Que signifie le mot manga ?
Ça, c'est une question qui n'est pas simple. En fait, le mot manga, au départ, ça signifie dessin varié. Ga, ça veut dire dessin. Et man signifie varié, spontané. L'idée aussi de quelque chose qui est très vaste, un peu comme un océan. Donc on peut traduire aussi par océan d'images. Mais le mot ensuite a évolué. Et donc, à la fin du 19e siècle, les Japonais l'ont utilisé pour traduire le mot caricature. Et c'est seulement dans les années 1920, à peu près, qu'il a été utilisé pour traduire le mot bande dessinée. Ça, c'est un Dragon Ball. Voilà, vous voyez, c'est un dragon. C'est une statuette qui a été offerte par le shogun à Napoléon III, il y a à peu près 150 ans. Si vous regardez bien, on voit qu'il y a un dragon qui semble émerger des flots et qui porte une boule de cristal. Donc, vous voyez, l'idée d'associer un dragon à une boule de cristal, en fait, ça existait déjà bien avant la création du manga.
Sur cette boule de cristal, j'ai remarqué qu'elle est transparente, alors que dans Dragon Ball, elle est plutôt orange et il n'y a pas les étoiles dessus.
Ah, c'est une belle remarque. C'est pas exactement la même chose, effectivement. Dans Dragon Ball, l'auteur a dû s'inspirer de la tradition, mais il l'a réinterprétée, il l'a transformée à sa manière.
Je voudrais savoir dans quel manga on peut retrouver la grande vague de Hokusai.
Alors, la grande vague de Hokusai, on la retrouve encore dans One Piece.
Et on la retrouve dans cette exposition aussi ?
Alors oui, dans cette exposition, on la retrouve. Donc on va voir la vraie grande vague de Hokusai, mais on va aussi voir comment est-ce qu'elle a été déclinée dans la bande dessinée contemporaine française.
Et je voulais vous demander si dans cette exposition, il n'y avait que des mangas japonais ou aussi des français ?
Que de mangas japonais. C'est vraiment une exposition sur...